إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue donc l'étude de l'épître مسائل الجاهلية de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى, dans laquelle il a mentionné un certain nombre de préceptes pré-islamiques qui ont été abolis par la religion de l'islam. Donc par la grâce d'Allah, nous avons vu les 100 premiers préceptes que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné. Il en reste maintenant 28 que nous allons voir de manière assez concise dans ces deux dernières assises. Donc le shaykh il dit rahimahullah, al-mas'alatu al-hadiyatu ba'du al-mi'a izdira'u al-fuqara fa'atahum biqawlihi wa la tatrud alladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashi. Le 101e précepte parmi les préceptes des gens de la jahiliya, c'est le fait de mépriser les pauvres. Alors Allah subhanahu wa ta'ala s'est opposé à cela par sa parole et ne repousse pas ceux qui implorent leur Seigneur matin et soir. Donc en réalité, on a déjà vu un précepte assez semblable à celui-ci, qui est le précepte 8, qui consiste à prendre pour preuve de la fausseté d'une chose qu'elle soit suivie par les gens faibles. Et on avait donc mentionné que les gens de la jahiliya délaissaient le suivi des prophètes alayhim salatu wassalam sous prétexte qu'ils étaient suivis par les gens faibles ou par les gens pauvres. Comme ils ont dit, qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun. Allons-nous croire en toi alors que ne t'ont suivi que les gens vils, c'est-à-dire les gens pauvres, ceux qui n'ont pas de rang au sein de la société. Telle était la religion des gens de la jahiliya. À tel point qu'ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause de leur orgueil, de rejeter et repousser ces gens pauvres qui s'asseyaient auprès de lui. Ils lui ont dit, si tu veux que l'on croie en toi et que l'on te suive sur ta religion, alors repousse un tel et un tel de ton assise. Et ils visaient par cela certains pauvres parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et ils disaient, car nous avons honte que les Arabes nous voient assis à côté de ces gens qui sont pauvres. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Et ne repousse pas ceux qui implorent leur Seigneur matin et soir, recherchant sa face. C'est-à-dire, ne repousse pas et ne rejette pas les gens qui vouent un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce par désir que viennent s'asseoir auprès de toi autre qu'eux. Car ces gens-là, ils ne méritent pas d'être repoussés. Au contraire, ils méritent d'être aimés et qu'un rang éminent leur soit accordé. Pourquoi? Car ce sont les meilleurs des créatures. Ce sont ceux qui ont cru au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc même s'ils sont pauvres, en réalité, ils ont un rang éminent auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est soumis à cet ordre de la meilleure manière. Et il s'asseyait auprès des pauvres parmi les croyants. Il les rapprochait de lui, il patientait auprès d'eux, et il faisait même partie des gens les plus nombreux dans ses assises, radiyallahu ta'ala anhum. On voit donc à travers cela que toute personne qui suit la vérité, même si c'est une personne pauvre, une personne qui paraît insignifiante aux yeux des gens, alors celle-ci, elle est noble et honorée auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui mérite d'être accueilli, c'est lui qui mérite qu'on lui fasse de la place dans nos assises. C'est lui qui mérite le respect et la considération. Quant à ceux qui se détournent de la vérité, qui rejettent la vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'enorgueillissent et refusent de suivre la vérité, alors cela, ils ne méritent pas d'être honorés. Car par leur refus de suivre la vérité, c'est eux qui se sont humiliés et ont avili eux-mêmes leur personne. Ils méritent donc d'être rejetés et de ne recevoir aucune considération. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, a dit « Al-mas'alatu thaniyatu ba'du al-mi'a ramyuhum atba'a al-rusul bi'adami al-ikhlas wa talabi al-dunya فأجابهم بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء. الآية وأمثالها. Le 102e précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait qu'ils accusaient les suiveurs des messagers alayhim as-salat wa salam de ne pas être sincères et de rechercher ce bas monde. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu par sa parole, selon le sens rapproché, et il ne t'incombe en rien de leur demander compte, ainsi que d'autres versets semblables. Il faisait donc partie des agissements des gens de la Jahiliya d'accuser les pauvres qui avaient cru au messager sallallahu alayhi wa sallam de n'avoir cru en lui et d'en avoir eu la foi que pour obtenir des biens de ce bas monde, ou alors pour atteindre des objectifs mondains. Comme les gens de Pharaon ont dit au sujet de Moussa et de son frère Haroun, alayhim assalam, وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ. Vous êtes venus pour avoir le dessus sur terre, pour avoir le pouvoir. Ils les ont accusés de cela afin de remonter les gens de la masse contre Moussa et Haroun, alayhim assalam, afin qu'ils aient de l'animosité envers eux et qu'ils rejettent le message de vérité avec lequel ils sont venus. Également le peuple de Nuh, alayhi salam, ils ont dit à son sujet: مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ. Celui-ci n'est qu'un être humain comme vous qui cherche à se distinguer. C'est-à-dire, il souhaite être suivi. Il souhaite avoir le dessus sur vous. Et c'est ainsi que faisaient les gens de la Jahiliya. Ils accusaient les prophètes, alayhim as-salatu wassalam, de rechercher le pouvoir, de rechercher la notoriété. Et ils accusaient les pauvres, parmi les croyants, de rechercher la richesse et le bien de ce bas monde en suivant les messagers, alayhim as-salatu wassalam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu par le verset que l'on a mentionné dans le précepte précédent. وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَا. Et ne repousse pas ceux qui implorent leur Seigneur matin et soir. Pourquoi? Recherchant sa face. Ceci est une réponse à ce dont ils ont accusé les pauvres parmi les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet qu'ils implorent Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Pourquoi? Recherchant sa face. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé qu'ils étaient sincères dans leur foi et qu'ils ne recherchaient pas les biens de ce bas monde. Et si tu médites sur la situation de beaucoup de gens aujourd'hui, tu verras qu'ils sont semblables aux gens de la Jahiliya au sol. Aujourd'hui, on voit les mécréants dans différents pays essayer de faire fuir les gens de l'islam. Et ils leur disent: regardez, les musulmans nous envahissent. Les musulmans vont prendre notre pays. Les musulmans vont prendre le contrôle, vont prendre le pouvoir. Tout cela afin de les effrayer et de les faire fuir de cette noble religion qui est la religion de l'islam. Et de la même manière, on trouve parmi les gens du faux, parmi les gens de l'innovation et des passions affiliées à l'islam, ceux qui s'opposent aux gens de la vérité par ce genre d'allégations. Lorsqu'ils voient un prêcheur appelé à la vérité, appelé au tawhid et à la sunnah, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de la Ummah, qu'ils ne trouvent rien pour dénigrer cette personne, ils vont tenter de le rabaisser et de faire naître dans le cœur des gens l'hostilité envers lui. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Celui-ci recherche la notoriété. Celui-ci recherche le pouvoir, l'argent. Celui-ci ne cherche qu'à être suivi. Celui-ci est éprouvé par l'argent, il cherche les biens de ce bas monde. Et ainsi de suite, parmi les accusations ignobles et dénuées de preuves dont ils accusent bon nombre de gens de la vérité. Et ceci, ils l'ont hérité des gens de la Jahiliya. Ensuite, le cheikh, il dit, rahimahullah, المسائل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بعد المئة: الكفر بالملائكة، الكفر بالرسل، الكفر بالكتب، الإعراض عما جاء عن الله، الكفر باليوم الآخر، التكذيب بلقاء الله. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné les préceptes 103, 104, 105, 106, 107 et 108, qui sont le fait de mécroire aux anges, le fait de mécroire aux messagers, le fait de mécroire aux livres, c'est-à-dire les livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se détourner de ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de mécroire au jour dernier et le fait de renier la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ceci fait partie des préceptes des gens de la Jahiliya. Ils ne croyaient pas aux livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés. Ils ne croyaient pas en ces messagers alayhim as-salatu wassalam. Ils ne croyaient pas aux anges, ils ne croyaient pas au jour dernier. Et également, ils ne croyaient pas en la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout ceci font partie des choses de l'invisible. Et eux, ils ne croyaient pas en l'invisible. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges des croyants dans son noble livre, en les décrivant par cette qualité qui est le fait qu'ils ont foi en l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans les premiers versets de la sourate al-Baqarah ses serviteurs pieux. Il parle de son livre et dit que c'est un guide pour les pieux. Puis il nous décrit les pieux et nous dit « Alladina yu'minuna bil ghaib » Ce sont ceux qui croient en l'invisible. C'est la première caractéristique qu'il a mentionnée pour les décrire. Et entre dans la foi en l'invisible, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi en ses anges, la foi en ses livres et en la révélation, et également la foi au jour dernier. Tout ceci fait partie de la foi en l'invisible. Et les gens de la Jahiliya, ils n'avaient pas foi en l'invisible. C'est pour cela qu'ils ont mécru et ont renié ces choses que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnées et qu'ils ne croyaient pas à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Ensuite, il a mentionné un autre précepte, suivant ces préceptes-là, mais un peu plus précis. Il a dit, rahimahullah, al-mas'alatu at-tasi'atu ba'du al-mi'a, at-takdhibu bi ba'di ma akhbarat bihi ar-rusul 'an al-yawm al-akhir. Le 109e précepte, c'est le fait de renier certaines choses dont ont informé les messagers alayhim salatu wassalam au sujet du jour dernier. Donc comme on a vu, il y avait parmi les gens de la Jahiliya certains qui ne croyaient pas du tout au jour dernier. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا Et ils disaient, nous n'avons que cette vie ici-bas. Ne croyez pas en la résurrection. Et il y en avait d'autres parmi eux qui croyaient au jour dernier, mais qui reniaient certaines choses parmi les choses dont nous ont informé les messagers d'Allah alayhim salatu wassalam au sujet du jour dernier. Parmi eux, certains rejetaient les comptes. D'autres rejetaient le fait que les œuvres seront pesées. Certains ne croyaient pas au paradis ou à l'enfer, et d'autres y mécroyaient totalement. Mais en réalité, celui qui mécroit en une seule chose, parmi les choses dont a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant le jour dernier, c'est comme s'il avait mécru entièrement au jour dernier. Et entre dans cela ce qu'on entend aujourd'hui de certaines personnes qui mécroient par exemple au châtiment de la tombe. Car la foi au jour dernier, elle englobe tout ce qui se passe après la mort. Et entre dans cela le fait de croire au châtiment de la tombe, que les serviteurs sont interrogés après leur mort, comme cela est rapporté en détail dans de nombreux hadiths authentiques de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aujourd'hui des gens qui appellent à renier cette chose confirmée et attestée dans notre noble religion. Et cela, ils l'ont hérité des gens de la Jahiliya. Ils rejettent ainsi une des choses dont a informé le messager sallallahu alayhi wa sallam concernant le jour dernier. Et en faisant cela, c'est comme s'ils avaient mécru complètement au jour dernier. Et ceci est de la mécréance majeure qui fait sortir la personne de la religion de l'islam. Donc le musulman, il doit être sur ses gardes et faire attention, comme on a dit, de qui il prend sa religion, et notamment en ce qui concerne les questions liées à la croyance. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, a dit « Al-mas'alatu al-ashiratu ba'du al-mi'a » قَتْلُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ Le 110e précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait de tuer les gens qui ordonnent la justice. Et ceci fait partie des agissements des adeptes de la mécréance. Le fait de tuer les prophètes, alayhim salatu wassalam, ainsi que les suiveurs des prophètes. Et s'ils n'arrivent pas à les tuer, alors ils font preuve d'hostilité envers eux et font tout pour leur porter atteinte. Comme l'ont fait les juifs. Comme on l'a mentionné dans des cours précédents, qui ont tué certains parmi les prophètes, alayhim salatu wassalam. Ou alors qui tuent les prêcheurs à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui appellent à la religion de vérité. Et cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur a adressé une menace sévère dans son noble livre. Il dit subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Ceux qui ne croient pas au signe d'Allah tuent les prophètes sans aucun droit et tuent les gens qui ordonnent la justice, annonce-leur un châtiment douloureux. Donc de la même manière, tous ceux qui s'opposent à la religion de vérité et obstruent le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala en tuant les prédicateurs ou en leur causant du tort, alors ils sont sous la menace mentionnée dans ce verset, car ils ont suivi en cela la voie des gens de la Jahiliya. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit: Al-mas'alatu al-hadiyatu 'asharatu ba'du al-mi'ah. Al-iman bil jibt wa at-taghut. Le 11e précepte, c'est le fait de croire au jibt et au taghut. Donc, le jibt, il a été mentionné que c'est la sorcellerie, et il a été dit aussi que c'est le diable. Quant au taghut, c'est tout ce par quoi le serviteur dépasse les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les êtres adorés, suivis ou obéis. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc à ce sujet: Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yu'minuna bil jibt wa at-taghut. N'as-tu pas vu ceux à qui une part du livre a été donnée avoir foi au jibt et au taghut? Donc, comme on a dit, avoir foi en la sorcellerie ou avoir foi au diable et au taghut, en ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la cause de la révélation de ce verset, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé à Médine après la hijra, comme vous le savez, il y avait là-bas les juifs. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un pacte avec eux afin qu'ils ne combattent pas les musulmans et qu'ils défendent Médine si quelqu'un venait à l'attaquer. Ils ont donc pris cet engagement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'ils ont vu que l'islam se propageait, que les musulmans étaient de plus en plus nombreux, alors certains de leurs chefs se sont rendus à la Mecque auprès de Quraysh afin de leur demander de l'aide contre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils voulaient de Quraysh qu'ils viennent avec eux pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors les gens de Quraysh les ont interrogés et leur ont dit: Vous êtes des gens du livre, alors qui de nous est sur la vérité? Est-ce nous ou Muhammad? Alors les juifs ont répondu: Sur quoi êtes-vous? C'est-à-dire, quelle est votre religion? Quels sont vos principes? Quels sont vos préceptes? Ils répondirent alors: Nous honorons l'hôte, nous entretenons les liens de parenté, nous abreuvons les pèlerins, et ainsi de suite parmi les œuvres qu'ils ont mentionnées. Puis ils ont dit: Quant à Muhammad, alors il injurie nos divinités, il dénigre notre religion, il s'oppose à la religion de nos ancêtres, et il a coupé les liens de parenté avec nous. Et ils ont mentionné d'autres choses pour dénigrer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors les juifs leur ont répondu: C'est vous qui êtes sur la vérité, et Muhammad est sur le faux. Alors qu'ils savaient que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, était sur la vérité. Ils savaient que c'est lui le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils savaient que le peuple des Quraysh était des idolâtres. Malgré cela, ils ont prononcé cette parole. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, ce verset que l'on vient de citer: Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yu'minuna bil jibti wat-taghut wa yaquluna lilladhina kafaru ha'ula'i ahda min alladhina amanu sabila. N'as-tu pas vu ce à qui une part du livre a été donnée? Avoir foi au jibt et au taghut. Et ils disent à ceux qui ont mécru qu'ils sont mieux guidés, qu'ils sont sur un meilleur chemin ou une meilleure voie que ceux qui ont la foi. Et médite ici sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'minuna bil jibt wa at-taghut. Avoir foi au jibt, à la sorcellerie, au diable et au taghut. Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela alors qu'ils n'ont été en accord avec les polythéistes qu'en apparence. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a considéré cela comme avoir foi au jibt et au taghut. Et ceci nous indique que le fait de s'accorder en apparence avec les mécréants, et ce sans aucune contrainte, cela est comme avoir foi en la religion sur laquelle ils sont, même si la personne n'y croit pas dans son cœur. Donc ceci est une réfutation des exagérateurs parmi les murjites, qui considèrent que la personne, même si elle insulte Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'elle insulte son messager sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'elle fait des actes de mécréance, prononce des paroles de mécréance, alors on ne peut pas la taxer de mécréance tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur. Et ceci, il n'y a pas de doute que c'est une croyance qui s'oppose au texte clair du Coran et de la Sunna. Il nous suffit comme preuve ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits comme ayant foi au jibt et au taghut, alors qu'ils ne se sont accordés avec les mécréants qu'en apparence, alors qu'en réalité, ils savaient qu'ils disaient faux. Ils savaient que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Ils savaient que c'est lui qui était sur la vérité. Mais l'orgueil, l'envie, la jalousie et l'hostilité envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a poussés à être d'accord en apparence avec les polythéistes. Allah subhanahu wa ta'ala a donc considéré leurs actes et leurs paroles comme de la mécréance. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a dit: Al-mas'alatu thaniyatu 'asharatu ba'd al-mi'ah tafdhilu din al-mushrikin 'ala al-muslimin. Le 112e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait de préférer la religion des polythéistes à la religion des musulmans. Donc, comme on vient de le voir dans ce récit, en ce qui concerne les juifs, qui ont fait prévaloir la religion des idolâtres du peuple de Quraysh à la religion de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et entre dans cela toute personne qui préfère une religion de mécréance à la religion de l'islam, ou toute personne qui considère comme égale une religion de mécréance à la religion de l'islam. Et entre dans cela également ceux qui essayent aujourd'hui d'appeler au rapprochement interreligieux, le rapprochement entre les juifs, les chrétiens et les musulmans. Et ils disent: ce sont toutes des religions célestes, il est obligatoire que nous nous considérions comme des frères et autres choses semblables. Donc tout ceci entre sous ce précepte, et ce point-là, nous l'avons vu plus en détail pour ceux qui ont suivi les cours avec nous lors de notre étude des annulatifs de l'islam. Vous pouvez donc y revenir pour plus de détails à ce sujet, inshallah ta'ala. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit: Al-mas'alatu thalithatu 'asharatu ba'd al-mi'ah labsul haqq bil batil. Le 113e précepte parmi les préceptes des gens de la jahiliya, c'est le fait de mélanger le faux à la vérité. Et ceci fait partie des habitudes des mécréants et des gens de la jahiliya, parmi les juifs, les chrétiens et autres. Ils mélangeaient donc le faux à la vérité, et ce afin que le faux se propage. Car comme on a dit, si le faux est présenté aux gens sous sa réelle apparence, sans être mélangé à une part de vérité, alors les gens ne vont pas l'accepter. Mais s'il est mélangé à une part de vérité, il est alors probable que soient leurrées certaines personnes parmi les croyants, et qu'ils acceptent ce faux à cause de quoi? À cause du fait qu'il est mélangé à une part de vérité. Et ils ne distinguent pas entre le faux et la vérité. Ils voient qu'il y a une part de vérité, alors ils l'acceptent totalement, et tombent alors dans le faux auquel ils ont été appelés. Il est donc obligatoire pour la personne douée de raison de ne pas s'empresser d'accepter une chose qu'elle ne connaît pas, même si elle lui paraît bonne. Mais cette chose, elle doit être examinée, elle doit être étudiée, renvoyée aux gens de science afin de savoir si cela fait partie du faux ou de la vérité. Aujourd'hui, les mécréants, il se peut qu'ils mentionnent certaines vérités, non pas par désir de soutenir la vérité, ni par amour de la vérité, mais dans le but que la fausseté se propage. Donc le musulman, il doit être attentif à cela et prendre l'habitude de distinguer entre les choses et ne pas s'empresser d'accepter toute chose qu'on lui présente sous prétexte qu'il semble s'y trouver une part de vérité. Mais chaque chose doit être analysée et seule la vérité doit être acceptée. Quant au faux, il doit être rejeté. Et comme on a dit, afin de distinguer le vrai du faux, il est indispensable de revenir aux gens de science, de revenir aux gens du savoir, qui ont les aptitudes afin de distinguer le faux de la vérité. Quant aux ignorants, aux gens de la masse, nombreux parmi eux sont ceux qui se font leurrer par ce genre de choses, et qui tombent dans de nombreuses faussetés, car elles leur sont présentées avec une apparence ou une part de vérité. Il est donc obligatoire pour le musulman, lorsqu'on lui présente une chose nouvelle, une chose qui lui est inconnue, même si elle lui paraît vraie, d'interroger les gens de science à ce sujet afin de ne pas tomber dans le faux sans s'en rendre compte. Car comme on a dit, il y a de nombreuses choses aujourd'hui qui sont propagées parmi les gens, que ce soit parmi les méthodes éducatives, ou alors des choses liées à la médecine, ou alors des techniques de vente et de communication. Il y a de nombreuses choses qui sont présentées comme étant des choses bonnes, fructueuses et profitables, et qui nous viennent des mécréants, ou alors de gens ignorants parmi les musulmans. Donc le musulman, il ne doit pas s'empresser d'accepter toute chose qu'on lui présente sous prétexte qu'elle lui paraît bonne et qu'elle lui paraît profitable. Mais il doit interroger les gens de science à ce sujet. Est-ce que cette méthode est une méthode éducative qui correspond au principe du Coran et de la Sunna? Est-ce que cette forme de médecine, cette forme de remède, cette forme de traitement contre telle maladie est permise dans notre religion et correspond au principe du Coran et de la Sunna? Est-ce que cette manière de vendre mes produits, de vendre ma marchandise, de faire ma communication au sujet de mon commerce et autres, est une méthode qui est licite et permise d'après les principes du Coran et de la Sunna. On renvoie toute chose au livre et à la Sunna. On accepte la vérité et on rejette le faux. Et pour cela, on revient aux gens de science qui ont les aptitudes pour distinguer le vrai du faux. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit: Al-mas'alatu al-rabi'atu 'asharatu ba'd al-mi'ah kitmanu al-haqq ma'a al-'ilmi bih. Le 114e précepte parmi les préceptes des gens de la jahiliya, c'est le fait de cacher la vérité tout en ayant connaissance. Il fait donc partie des préceptes des gens de la jahiliya de cacher la vérité. Et ceci était manifeste notamment chez les gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens. Car eux, ils connaissaient la vérité, mais ils cachaient la vérité et ne la clarifiaient pas aux gens. Pourquoi? En raison du fait qu'ils recherchaient la satisfaction des gens plus que la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses les plus immenses qu'ils ont cachées, il y a la description du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont ils ont eu connaissance dans leurs livres, la Torah et l'Évangile. Ils connaissaient la description du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils savaient que son message est le message de vérité. Mais ils ont caché cette vérité et ont renié, ont mécru au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans plusieurs versets de son noble livre. Parmi ces versets, il y a sa parole: Alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ceux à qui nous avons révélé le livre le connaissent comme ils connaissent leurs enfants, mais certes un groupe parmi eux cache sciemment la vérité. Ils ont caché cela. Ils n'ont pas informé les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bel et bien le prophète qui leur avait été décrit dans leur livre, mais ils ont rejeté son message sallallahu alayhi wa sallam. Et de la même manière agissent nombre de personnes jusqu'à aujourd'hui, et ce même parmi les musulmans, qui cachent la vérité alors qu'ils en ont connaissance. Et il faut savoir que toute personne qui cache la vérité et qui ne clarifie pas et n'expose pas la vérité aux gens, alors il est sur ce point sur la voie des juifs et des chrétiens. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. Allah a pris l'engagement de ceux qui ont reçu le livre qu'il l'exposerait aux gens et ne le cacherait pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans son noble livre: Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil-kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun. Ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre comme preuve et bonne voie après que nous les ayons exposés aux gens dans le livre, ceux-là sont ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc ces versets, ils nous prouvent qu'il n'est pas permis de cacher la vérité pour celui qui est en capacité de l'exposer, de la démontrer. Quant à celui qui n'en a pas les capacités, ou alors qui craint un mal plus grand que le fait de ne pas propager certaines questions ou certains points faisant partie de la vérité. Alors celui-ci, il se peut qu'il soit excusé, mais celui qui n'a pas empêchement, que rien n'empêche d'exposer la vérité, et qui cache la vérité, par exemple, par désir d'un bien mondain, alors celui-ci, il est sous la menace d'être maudit par Allah subhanahu wa ta'ala et d'être maudit par les maudisseurs. Car entre sous cette menace toute personne qui cache la vérité en raison du suivi de ses passions, ne clarifie pas la vérité aux gens. Si on l'interroge au sujet d'une question religieuse, il répond d'une réponse contraire à la vérité, alors qu'il connaît la vraie réponse, mais il cache la vérité. Est-ce que le voile est obligatoire pour la femme? Il va chercher une réponse afin de satisfaire l'auditoire. C'est un choix personnel. Celle qui se sent prête doit le mettre. Ou d'autres réponses semblables, comme on l'entend, de certains prêcheurs égarés sur le devant de la scène aujourd'hui. Il cache la vérité. Une vérité dont ils ont connaissance. Une vérité qu'eux-mêmes propageaient auparavant dans leur cours et leur auditoire. Mais maintenant, ils cherchent à satisfaire certaines personnes, alors ils ont changé de discours, afin de satisfaire leur auditoire. Et ceci est une manière de cacher la vérité. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prononcer la parole de vérité. Comme on l'a déjà vu précédemment, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, Kounou qawwamina bil qist, shuhada'a lillah, walau ala anfusikum, ou il walidayni wal aqrabin. Observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques pour Allah, fût-ce contre vous-même ou contre vos pères et mères et vos proches parents. Ceci concerne le fait de cacher le témoignage. Alors que dire du fait de cacher la science, du fait de cacher la religion de vérité? Cette science qui est source de guider et qui oriente les gens vers le droit chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé pour eux. Il est donc obligatoire pour toute personne qui en a les capacités de clarifier la vérité et de ne pas faire preuve de transigeance concernant les questions religieuses. Il y a certaines personnes parmi les gens affiliés à la prédication qui voient les gens sur le faux, voient les gens par exemple dans certaines œuvres de polythéisme, tomber dans certaines innovations, voient les gens tomber dans certains grands péchés ou dans certaines transgressions s'opposant à la voie du Coran et de la Sunna et la voie de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se tait. Il garde le silence. Il ne veut pas parler. Il ne veut pas clarifier la vérité. Alors qu'en réalité, il est obligatoire de démontrer la vérité. Il ne doit pas laisser les gens dans le polythéisme, dans la vocation des morts, l'adoration des tombes, l'adoration des mausolées. Il ne doit pas laisser les gens tomber dans les innovations qui les égarent du droit chemin et de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne doit pas laisser les gens tomber dans des transgressions, tomber dans des péchés, tomber dans des choses s'opposant au Coran, des choses s'opposant à la Sunna, des choses s'opposant à la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Mais toute transgression, s'il veut être un vrai prêcheur à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il se doit de la condamner, et de la blâmer, et de l'interdire aux gens, et de les mettre en garde contre celle-ci, afin de les prévenir contre son mal. Imagine-toi que les gens avancent sur une route de nuit, et qu'il y a dans cette route des embûches qui peuvent leur nuire, des trous dans lesquels ils peuvent tomber. Ne vas-tu pas les prévenir? Ne vas-tu pas les mettre en garde afin qu'ils évitent de prendre ce chemin et qu'ils ne tombent pas dans ces trous? Il n'y a pas de doute que tu les préviendras. Alors il est encore plus impératif que tu les préviennes des choses pouvant les éloigner de la voie de la vérité et des choses pouvant les égarer du droit chemin, que tu les préviennes contre le mal. Que tu les préviennes contre le polythéisme, que tu les préviennes contre les innovations, que tu les préviennes contre les transgressions, les grands et les petits péchés, et ainsi de suite. Si tu vois une transgression quelconque se propager dans les rangs des musulmans, alors il fait partie de notre devoir de les avertir et de les mettre en garde afin qu'ils évitent cette chose, et qu'ils s'en écartent et s'en éloignent, et de leur clarifier la vérité à ce sujet. Mais on ne doit pas les laisser tomber dans l'égarement et se dire ceci ne me regarde pas. Je m'occupe de ma personne, et ainsi de suite, parmi les excuses infondées que trouvent certaines personnes pour garder le silence et ne pas clarifier la vérité. Donc il est important pour nous de comprendre que le musulman, il ne doit pas rechercher la satisfaction des gens, il ne doit pas rechercher à être aimé par les gens, mais son objectif est de chercher la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et d'être aimé par son Seigneur. C'est cela l'objectif du musulman. Donc, lorsqu'il est interrogé sur une question religieuse, lorsqu'il parle de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est de son devoir de clarifier la vérité et de mettre en garde contre le faux et de ne pas les laisser se propager, sous prétexte de ne pas s'opposer aux gens et d'obtenir leur satisfaction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet dans un hadith authentique rapporté par l'imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala, quiconque recherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala en provoquant la colère des gens, alors Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de lui et fera que les gens soient satisfaits de lui. Et quiconque recherche l'agrément des gens en provoquant la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre lui et fera que les gens soient courroucés contre lui. Ceci est la base à ce sujet. Et c'est un hadith important que le musulman doit mettre en pratique afin de faire prévaloir en toute chose l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas l'agrément des gens. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on verra les derniers préceptes que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés dans le cours de demain, inshallah ta'ala. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.